La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Grégoire Difior et prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson, réalisation de Daniel Finot. Autour de moi, Elisabeth Philippe, Laurent Nunez, Philippe Chevillier, à notre sommaire, l'éducation de Jésus de John Maxwell Cozzi, au seuil, Sigma de Julia Deck aux éditions de Minuit et Défense de Prosper Brouillon d'Éric Chevillard aux éditions Noir sur Blanc. Boris Pinault est là également, surveillant ces écrans de réseaux sociaux pour donner à entendre vos avis, alors soit en amont sur la page Facebook, la Dispute FC, soit pendant le direct, en vous rendant sur le fil Twitter de la Dispute. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la Dispute, ce soir des places de cinéma pour un film dont on va parler demain dans la Dispute, c'est Western de Valeska Grisbach qui vient de sortir dans les salles. Nous ouvrons avec le nouveau roman du prix Nobel de littérature John Maxwell Cozzi, L'éducation de Jésus, qui paraît aux éditions du Seuil dans une traduction de Georges Laurie. Ce roman est la suite du précédent, Une enfance de Jésus, paru il y a 4 ans dans notre pays en tout cas. Dans le premier volume, on faisait la connaissance avec un homme et un petit garçon arrivant dans un nouveau monde, l'homme n'étant pas le père de l'enfant, et tous deux semblaient ne pas vraiment avoir de passé, ou en tout cas pas beaucoup de souvenirs. À coup de dialogue entre l'homme et l'enfant, l'écrivain sud-africain questionnait la place de l'homme, le sens du langage, des petites questions. D'autres petites questions au menu de cette éducation de Jésus, quand le livre commence, David a cette fois 6 ans, son père adoptif Simon a trouvé compagne Inès, ils fuient ensemble la grande ville, ils pensent que la police est à leur trousse, on en reparlera peut-être, ils trouvent refuge dans une exploitation agricole et David doit trouver une école pour l'accueillir, mais on ne sait pas s'il est surdoué ou attardé, ça pose évidemment quelques questions. Elisabeth Philippe, si vous ouvriez cette dispute consacrée à l'éducation de Jésus, je sais que vous avez du mal à vous remettre du prix 30 millions d'amis qui vient d'être décerné.
Et peut-être que Cozzi aurait pu être nominé.
Il y a toujours des animaux chez Cozzi.
Hein. Là, il y a un chien.
Ouais. C'est moins bien qu'un chat, mais c'est pas mal quand même.
C'est effectivement un peu moins bien, mais nous n'allons pas ouvrir ce débat-là, il faudrait beaucoup plus de temps. Très bien, donc c'est à moi qu'échoit la dure tâche de résumer ce
livre.
J'ai
donné quelques pistes quand même.
Donc effectivement, vous l'avez dit, Simon, David et Inès, donc ce trio, cette sainte famille, débarquent dans une plus petite ville qui s'appelle Estrella, et il faut trouver une école à David, vous l'avez dit, et donc on comprend le titre, l'éducation de Jésus. Et cette quête va mener le jeune David dans une école assez particulière, une académie de danse dirigée par un professeur de musique, un pianiste, et son épouse Anna Magdalena. Donc là aussi, on voit bien la référence biblique. Anna Magdalena et alors...
Et Bach aussi.
Pardon ?
Et Bach aussi.
Et Bach, bien entendu. Et bon, de toute façon, les références, il y en a énormément, bien évidemment. Et l'enseignement dispensé dans cette académie est assez particulier, puisqu'il consiste à exécuter des chorégraphies, des danses, de façon à invoquer les nombres et les étoiles. D'ailleurs, la ville s'appelle Estrella, étoile. Alors, il y a tout un jeu sémantique, comme ça, un champ lexical autour du cosmos, du ciel, etc., etc. Et je pense que voilà pour l'intrigue. Et il y a un personnage qui s'appelle Dmitri, le gardien du musée, qui est également épris de la très belle Anna Magdalena, avec sa peau d'albâtre et son corps extrêmement gracieux de danseuse. Et dans ce monde assez harmonieux, mais malgré tout inquiétant en dépit de cette harmonie, Dmitri va jouer les troubles-fêtes. Alors, J'avoue que je ne me suis pas lancée dans cette lecture l'esprit vraiment serein, dans la mesure où j'avais été déjà assez dubitative à la lecture du premier volet, l'enfance de Jésus, trouvant déjà le livre extrêmement abstrait, désincarné, mais empli d'une sorte d'inquiétante étrangeté dans sa façon de mettre en place une forme de totalitarisme doux. Je trouvais ça relativement intéressant, mais malgré tout, l'écriture assez plate de Coetzee dans ce premier volet m'avait laissé assez perplexe et j'avoue que mes doutes se sont trouvés renforcés à la lecture de l'éducation de Jésus, puisqu'on retrouve cette langue épurée jusqu'à l'extrême. Alors certains critiques anglais notamment expliquent que c'est formidable, qu'on a l'impression que c'est une langue, que c'est comme si c'était une langue déjà traduite de l'espagnol, puisqu'effectivement il y a beaucoup de termes espagnols dans le texte. D'ailleurs le livre de chevet du petit garçon de David, c'est Don Quichotte, là aussi c'est une référence très importante dans le texte. Et donc c'est une simplicité linguistique, stylistique, qui pour moi confine à une forme de platitude, voire de monotonie, et ça rend la lecture assez fastidieuse, assez morne. Et ce qui est d'autant plus paradoxal qu'il est beaucoup question d'âme, comme je le disais, d'élévation, donc avec ces danses qui sont censées invoquer les étoiles et les nombres. Et là, ça m'a rappelé un peu un livre qu'on a évoqué ici précédemment, Don DeLillo, comme si ces auteurs avaient besoin de quitter la veine romanesque pour se déplacer vers quelque chose de plus philosophique. Mais je trouve que ça aboutit à quelque chose d'assez creux. J'ai du mal à émettre ces critiques lorsque je parle d'un romancier de la stature de Coetzee, prix Nobel qui plus est, mais je trouve vraiment qu'en tout cas sur les 150 premières pages, qui sont entièrement constituées de ces dialogues un peu creux, une espèce de fausse maïeutique paradoxalement stérile, avec des tics d'écriture un peu pénibles, le personnage de Simon est toujours introduit par lui Simon, et s'ajoute à cela la fausse candeur de la voix d'enfant, donc ce David qui, vous l'avez dit, est-il surdoué, est-il attardé ou par sa voix, par la vérité évidemment qui sort de la bouche de cet enfant. Donc ça donne des phrases du style, je sais que vous n'êtes pas pour les citations à charge, mais quand c'est répété à longueur de temps,
vous n'y résistez pas.
C'est son pénis qui a fait tuer des gens. Pourquoi lui a-t-il
Si vous faites le doublage catastrophique là.
Pardon. Oh non, catastrophique, s'il vous plaît.
Si, parce que c'est à charge.
Pourquoi lui a-t-il fait un rapport sexuel? Enfin, voilà, il y a ces tournures un peu maladroites, mais qui viennent scander le texte. Et je trouve que ça vient l'alourdir encore plus. Donc voilà, j'étais quand même assez déboussolé par ce conceptualisme creux, matiné d'intertextualité biblique. Et pour dire qu'il y a une tension entre la raison et la passion, une tension entre le monde sensible et le monde des idées. Donc autant relire le Timée ou la République de Platon. Mais on y viendra peut-être après. Heureusement, je trouve qu'il y a une évolution à partir de l'irruption du personnage de Dimitri qui vient apporter un peu de chair, de sang.
D'incarnation quand même.
D'incarnation, parce que là, on est vraiment... C'est un retour à la fiction pure, parce qu'il y a toute une question, un questionnement autour de la fiction. Et là, c'est l'irruption d'un personnage très dostoïevskien qui vient... faire enfin...
Clairement dostoïevskien.
Clairement dostoïevskien. Respirer un peu le livre.
Bon, ben voilà. C'était plus qu'un premier avis. Hein. C'était déjà quelque chose d'Elisabeth Philippe. Philippe Chevillier.
Alors moi, je vais le défendre. Je vais le défendre quand même, ce livre, parce que je trouve...
quand même, comme vous voulez, hein, Philippe. Hein.
Oui, mais je le veux.
Bon.
Lui, je l'avais choisi en fait.
Donc, lui, il le veut.
Oui, je le veux. Non, ce que je trouve intéressant, et moi ce qui m'a captivé, c'est cette façon justement d'être toujours en décalage et d'être toujours sur des fausses pistes. Alors on le dit évidemment pour le point de départ, qui est parce qu'on est dans un pays qui est pas vraiment situé, même si on sait que c'est en Amérique latine, qu'on évoque des migrants. Bon, dans le premier livre, bon, le problème des migrants, mais sauf qu'on est dans un temps, on sait pas très bien de quel temps il s'agit. Ensuite, on a cette fausse vraie fausse ligne romanesque biblique, parce que c'est vrai que Simon et Inès, donc les deux personnages, le couple en fait, ne sont pas un vrai couple, qu'il a décidé que dans le précédent volume que c'était la mère de l'enfant, la mère idéale, qu'il a un petit peu le rôle de Joseph, que cet enfant fait penser, bien qu'il s'appelle David, à Jésus, parce que finalement l'enfance de Jésus dans les évangiles, on la connaît très mal, on sait qu'à 12 ans il s'est échappé un petit moment et qu'ils l'ont retrouvé au temple, et que cet enfant était quand même assez insolent par rapport à Marie-Joseph. Joseph, Donc à chaque fois, et puis après dans l'histoire, c'est vrai qu'on se retrouve, on se dit on va être dans quelque chose de très très métaphysique, de très philosophique, et on a cette dimension là. Mais à chaque fois on a l'impression que c'est un peu en dérision, parce que quand même l'histoire de la danse avec les étoiles et les nombres, c'est assez beau, c'est assez poétique, mais effectivement ça va pas loin. Et ce personnage de l'enfant qui est, on disait, surdoué, qui est parfois brutal, qui est parfois, et à chaque fois du coup on a l'impression que tous les problèmes qui sont abordés philosophiques, métaphysiques, le sont avec des failles, des cassures, comme pour mieux les briser. Cette espèce de relation, pardon, cette relation entre la passion contradictoire entre la passion et la raison qu'exprime l'enfant. L'enfant qui dit mais je suis trop, vous dites tout en disant que je suis trop petit, veut plus être un enfant, mais il veut pas non plus être un adulte parce qu'il se rend compte que les adultes n'arrêtent pas de parler de raison et en fait sont totalement hypocrites et vivent que par leur passion. Ça va pas forcément très loin, mais à force, ça crée des petites piqûres comme ça qui, à chaque fois, m'ont déstabilisé dans cette ambiance un peu vaguement torride, des personnages très bizarres. Et l'apparition d'Anna Magdalena, déjà, c'est un personnage intéressant. Et puis de Dimitri qui renverse un peu la table de tout ce qu'il peut y avoir dans le livre. Donc, on sait pas très bien où on va. Et quand on arrive à la fin, on sait pas trop bien où on est allé. C'est palpitant quand même parce qu'il se passe pas mal de choses. Le Dimitri, il a plus d'un tour dans son sac. Et à la fin, on ne sait pas très bien ce qu'on a lu, mais en même temps, c'est une petite musique qui reste dans ma tête et qui pose quand même les problèmes de l'éducation, du rapport des parents-enfants, enfin des tas de choses, mais de façon un peu décalée, chemin de traverse, etc. Moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce livre.
Bon, vaguement torride, comment vous avez dit cette expression très très belle. Ça donne envie. Laurent Nunez.
Oui, j'avoue que j'ai eu un peu peur au début là, quand vous avez présenté le livre. J'ai cru que vous alliez me demander à moi d'en parler en premier. Heureusement, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est Elisabeth qui s'y est collée.
C'était pas pour vous embêter. Et,
parce que voilà, ce livre m'a profondément ennuyé.
D'accord.
Et j'ai un peu mal à dire parce que c'est prix Nobel, mais en même temps.
Est là pour parler de l'actualité, voilà. Des livres qui sortent.
Bien sûr. Prix Nobel. En même temps, le prix Nobel, vous savez, ne récompense jamais la littérature, récompense quelqu'un qui a fait des bienfaits pour l'humanité. C'est ce qui a marqué. Et puis le premier prix Nobel, c'était Sully Prudhomme, quand même. Donc ça, on peut. Voilà. Donc ça autorise
je crois que j'ai jamais lu une ligne de Sully Prudhomme.
Bah, oui.
Je le confesse ici.
Personne non plus.
Mais c'est peut-être formidable alors.
Non, regardez, il y a un poème très mauvais qui s'appelle Le vase fêlé ou Le vase ébréché. C'est très, très mauvais. Regardez.
On verra ça avec Eric Chevillard un peu plus tard.
Oui, ouais, exactement. Je trouvais, en effet, l'écriture de Coetzee est pour moi beaucoup trop morne, beaucoup trop vide pour être intéressante. C'est-à-dire que vraiment, vous savez, j'ai l'impression qu'il fait partie de ces écrivains qui pensent que le sommet de la littérature, c'est la philosophie. C'est l'écriture philosophique. Et là, c'est-à-dire que il y a mille et une façons d'intégrer des raisonnements philosophiques dans un livre. Hein. Musil ou Proust font ça très bien. Mais là, disserter sur le fait qu'il faille sauver ou non un canard, sur le prénom d'un enfant, sur ce que veut dire, sur ce que veut dire les mots, ça déborde quoi. Ce que veut dire le mot culpabilité, etc. Je trouve que c'est assez mal fait. Moi, ça m'a donné envie de sauter les pages. Je suis plus pour la fiction quand on est dans la littérature. Voilà, la philosophie ne me semble pas l'apogée ni l'extrême, le meilleur de la littérature. Et donc, du coup, je suis un peu passé à côté, on va dire.
Bon, je suis un peu entre vous trois, si je puis dire, parce que je trouve quand même que ce deuxième volume est beaucoup plus incarné, notamment grâce à Dimitri. Il y a quand même des choses qui se passent. Moi, j'ai plutôt de la sympathie pour quelqu'un qui essaye autre chose. Coetzee pourrait effectivement continuer à dérouler, enfin il le ferait peut-être et sans doute moins bien, des disgrâces bistères et ainsi de suite. Là, il s'est lancé dans quelque chose d'extrêmement périlleux. J'entends bien et je partage pour partie cette idée qu'il n'y arrive pas formidablement bien, que la philosophie et la littérature, c'est vrai, il y a besoin de plus de distance ou de prisme qu'il n'y arrive pas tout à fait bien. Mais j'étais plutôt, comme Philippe Chevillier, sensible à cette atmosphère vaguement torride.
Je ne voudrais pas que le lecteur s'imagine qu'il va rentrer
dans un brasier. Non, mais il y a ça. Moi, j'aime bien aussi cet espace très indéfini dans lequel ils sont, et ce temps aussi. Je trouve qu'il y a quand même des choses assez réussies, mais je voulais faire entendre aussi par Boris Pinault, quelques commentaires qu'on a pu avoir sur Twitter, Facebook ou autre.
Oui, Guy Billy, qui livre ses réflexions sur le personnage de David, lui qui a appris à lire tout seul, ne sait lire que l'unique livre qu'il ait jamais eu entre les mains de Don Quichotte, et lui qui ne cesse de vouloir être reconnu, lui qui veut se trouver à travers les yeux des autres, finit par faire de la vie des adultes autant de chimères contre lesquelles il ne cesse de lutter, les renvoyant à la vacuité de leur existence et s'abandonnant au caractère infini et même cosmique de son propre salut.
Ah oui, infini et cosmique. Ah, ça bouffe. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que cette tête, Elisabeth Philippe ?
Non, c'est ma tête, pardon. Non, il y a des choses, malgré tout. Moi, je trouve que ce qui est assez beau à la fin du texte, c'est Simon, donc le père adoptif de David, qui prend des cours d'écriture. Et là, il y a une forme de résolution, même si ça reste très ténu, du texte, notamment sur cette réflexion sur la fiction, que Dee aurait peut-être dû poursuivre pour voir que ça ne fonctionnait pas forcément, une telle abstraction ne fonctionnait pas forcément. Et là, il y a une émotion qui affleure, et je trouve que c'est assez beau, parce que c'est subtil, enfin, que Dee, là, j'en parle comme si c'était un auteur mineur, mais j'ai adoré Disgrâce, il y a énormément de livres de lui qui me plaisent énormément, et je suis pas la seule, et c'est quand même un auteur extrêmement important. Donc là, je retrouve sa finesse d'écriture, sa subtilité, enfin des choses qui me plaisent énormément. Et pour rebondir sur ce que disait Philippe sur cette atmosphère vaguement torride, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a ces chemins de traverse, ces moments de surprise qui surviennent, qui jaillissent. Il y a notamment cette scène très étrange où il se retrouve sur une plage naturiste. Anna Magdalena a emmené les enfants de l'académie à la plage ou au bord d'un lac et tout le monde est nu et Simon va avoir une discussion avec elle et se trouve contraint de se dénuder à son tour et c'est des scènes, c'est vrai que c'est ponctué de scènes assez surprenantes, assez oniriques aussi, tout en étant dans un environnement très très prosaïque, très là aussi très lisse. Donc il y a ce mélange qui paraît intéressant et que je trouvais déjà assez surprenant dans le premier volet. Malgré tout, ça n'arrive pas à m'aimanter.
Un dernier petit mot, Philippe Chevillier.
Oui, moi je pense que le débat qu'on a sur le style, qu'on peut trouver plein, moi ce qui m'intéresse plus, c'est de penser qu'en fait, on est dans un roman, encore une fois, qui est abstrait dans ses grandes lignes, et qui se retrouve très concret dans son style, presque effectivement minimaliste parfois, ou très simple. Donc moi c'est ça qui crée, je ne vais pas dire que je suis complètement emballé, mais ça me crée une sensation quand même de un intérêt, je suis quand même captivé par ça. Puis la deuxième chose, c'est que je trouve que c'est un peu exagéré de dire qu'il n'y a pas de fiction, parce qu'il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses dans le livre, alors qu'ils peuvent être totalement plates. La philosophie, elle est quand même justement abordée, et encore une fois, j'ai l'impression qu'elle est un peu... elle est juste ébauchée, et puis parfois, il y a beaucoup de dérision quand même, parce que justement, le personnage de Dimitri, il renverse un petit peu tout, et l'enfant aussi, et Simon à la fin, qui ne comprend pas très bien, même s'il se met à danser dans les étoiles lui aussi. Bon, je trouve qu'il y a quand même plusieurs choses qui sont étonnantes dans ce livre, qui c'est pas forcément mon livre de l'année, mais moi ça m'a plutôt intéressé.
Laurent Nunez, pour finir.
Oui, il y a un peu de fiction, mais vous savez, c'est quoi la fiction ? La fiction, c'est gratuit. La fiction, c'est des scènes qui se passent, qui ne signifient rien. Ici, toutes les scènes, on a l'impression qu'elles signifient démesurément, c'est-à-dire qu'elles sont là comme une sorte d'exemple philosophique. C'est pour ça que c'est ce qui m'embête dans le livre. Il y a de la fiction, mais elle est là, finalement, pour témoigner d'une idée.
Ce sera le mot de la fin concernant cette discussion autour de l'éducation de Jésus, de John Maxwell Coetzee. Voyez par vous-même, le livre est paru, publié aux éditions du Seuil, dans une traduction de Georges Laurie, à suivre dans la dispute Julia Deck et Éric Chevillard.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée le jeudi soir à la littérature avec Sigma, nouveau livre de Julia Deck, publié aux éditions de Minuit. Sigma pour Hector Millendonck, Berne, le 16 mai, 17h40. Comme vous le savez, l'organisation n'est guère favorable à la révolution, si ce n'est en surface, lorsque tout change pour que rien ne change. Mais les théories du professeur Lestir semblent encore loin d'être applicables et nous n'envisageons pas de riposte immédiate. Voyons plutôt ce qu'il en ressort. Par un mouvement de contre-révolution, son projet pourrait aussi bien servir à renforcer la configuration millénaire des rapports entre les sexes. Il importe néanmoins de ne pas colporter certaines idées hasardeuses. Ainsi, la distinction opérée par le professeur entre amour et sexualité ouvre au plus grand péril. L'idéal réside à l'évidence dans l'équilibre des deux, sans quoi le sujet devient la proie de frustrations envahissantes. Bientôt, celles-ci conduisent à des troubles variables, voire à la rupture du lien social, voire à l'attaque de la société tout entière. Vous veillerez donc à ce qu'il élimine cette partie de son discours. À ce stade, la meilleure méthode consiste à l'applaudir chaleureusement, un tel enthousiasme de votre part ne pouvant que doucher ses ardeurs. Voilà un des fragments, très nombreux fragments, qui constituent ce livre très singulier de Julia Deck. Alors, l'organisation n'est guère favorable à la révolution. Mais quelle est donc cette organisation, Philippe Chevillé ?
Ah, c'est une organisation internationale, mondialisée, qui un Big Brother, un peu un télo, puisque en fait leur principale mission, visiblement, il y a peut-être d'autres, c'est de veiller à ce que les œuvres d'art ne soient pas trop révolutionnaires, que les idées soient pas trop dérangeantes et ne dérangent pas, oui, l'ordre mondial. Moi, au départ, j'avais un petit peu peur de ce début, parce que le côté complot, organisation, forcément libérale, etc. Je me disais, ça va être un peu convenu. Et puis, en fait, très vite, on est tout de suite, quasiment, on est pris par le livre et par ses personnages, parce que évidemment, cette organisation, elle a besoin d'agents secrets pour travailler, et ces agents sont tous assez amusants. À part l'une d'entre elles qui est un peu capée, les autres sont généralement des étudiants un peu au chômage. Et alors, ils ont envie un peu de participer un petit peu plus qu'à leur mission. Ils sont très concernés par les personnages qu'ils ont à surveiller. Et donc, en fait, dans le livre, la principale intrigue, c'est d'empêcher que la toile d'un peintre suisse, feu, un peintre suisse très important, que cette toile, qui a été redécouverte apparemment dans un pavillon, ne crée une révolution, parce qu'elle est subversive en soi. Apparemment, elle est abstraite, un peu art brut et tout, ça fait peur. Et donc, le meilleur moyen d'empêcher ça, c'est de faire en sorte qu'elle soit exposée dans un endroit, soit une institution, un musée, soit un peu branchée, genre une galerie qui fait une exposition sans risque et qui soit très esthétique, qui parle de la couleur et qui parle surtout pas du caractère révolutionnaire de l'œuvre. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Et comme ils ont sous la main une galeriste qui veut faire cette exposition, que son mari est ami du banquier qui possède le tableau, qui peut convaincre éventuellement ce banquier de prêter ce tableau, et qu'en plus il y a une actrice qui est une actrice en vue, qui elle aussi est un peu surveillée, parce que quand même elle veut faire des films un petit peu rebelles à ce point de sa carrière, et il faut quand même la surveiller, mais elle peut aussi influer sur le banquier qui l'adore pour que tout se passe bien. Et évidemment, ça va pas forcément se passer comme on imaginait, mais il va se passer beaucoup de choses, et il y a beaucoup d'ironie, beaucoup de réflexion à la fois sur l'art, et c'est un roman d'espionnage, mais totalement, là je vais encore utiliser le mot décalé, mais c'est vrai qu'il est décalé vraiment. Et en plus, dans la forme, on en parlera après, il est vraiment intéressant aussi.
Laurent Nunez, premier regard sur le nouveau livre de Julia Deck.
Ah oui, il faut courir l'acheter. Ça a été
tout de suite là.
Ouais, pour moi, c'était ça a été quelques heures vraiment formidables. Julia Deck, elle pose une question qui pour moi, la seule question qui vaille le coup. Comment ça se fait qu'on peut lire Rimbaud et ensuite retourner travailler? Comment ça se fait qu'on peut lire des rebelles, qu'on peut aller voir des pièces qui fissurent la société et ensuite réintégrer cette société parfaitement? Et là, elle a une idée de génie, elle pense que c'est un complot. Voilà, c'est l'idée. Il y a un complot universel, des gens qui sont là pour pétrifier ce qui viendrait fissurer le monde. Et c'est cette organisation Sigma, c'est-à-dire la Somme, parce qu'elle fait des toutes petites actions, mais la somme de ces petites actions fait que le monde n'éclate pas. Alors que tous les artistes demandent cette explosion du monde. Et donc voilà, c'est une sorte de pièce de Marivaux. Il y a quatre grands acteurs qui croient connaître leur rôle et qui en fait obéissent à quatre domestiques. C'est une Marivaux. Quatre domestiques plus intelligents qu'eux. Et ils vont essayer d'annuler cette œuvre subversive. Vous savez, il y a un mot horrible dans une nouvelle langue là, informatique, ils appellent ça disruptive. Mmh. Ben voilà, c'est une œuvre disruptive. Si on la regarde trop attentivement, voilà, on peut tout balancer et partir. Et donc voilà, il faut empêcher ça. Donc c'est une idée complètement géniale, qui est très proche, vous savez, d'Antoine Bello et des falsificateurs. Voilà, qui moins bien, parce que vraiment dès qu'elle écrivait en plus très très bien, pour moi c'est tout est réuni. Il y a une vraie intrigue, une vraie pensée philosophique cette fois, mais assez cachée. C'est très très bien fait. Voilà, pour moi c'était vraiment un livre d'une intelligence et un livre amoureux de l'art vraiment. Voilà, et qui rappelle à quel point l'art c'est très dangereux.
Elisabeth Philippe, vous confirmez?
Je confirme en partie. Je suis d'accord avec Laurent. Moi aussi, j'ai pensé à Antoine Bello, au falsificateur, en lisant ce livre. Mais on est aussi, c'est les éditions de Minuit, on est totalement dans la filiation des Schnoz, le Jean Schnoz d'Envoyé spécial, par exemple. Donc, c'est avec ses vrais faux romans d'espionnage. D'ailleurs, le Sigma est sous l'égide de John le Carré, pardon. Alors, au départ, j'avais un peu peur que le dispositif narratif, qui est vraiment éclaté façon puzzle, reste un peu creux, artificiel. Et surtout tournant autour d'une trame un peu tirée jusqu'à l'usure, je veux dire celle du motif de l'œuvre disparue ou de l'œuvre invisible qu'on retrouve aussi bien chez Henry James, chez Umberto Eco, enfin qu'on a pu lire dans de très très nombreux romans. Et donc j'avais peur de cela, et une fois que tout se met en place, en réalité, on s'aventure plutôt effectivement avec plaisir dans ce labyrinthe qui est plutôt très très espiègle, ultra référencé, par exemple la banque dans laquelle travaille le banquier amoureux de l'art s'appelle Berghoff, donc comme je crois c'est le nom du sanatorium de la montagne magique, cette histoire de pavillon dans lequel se trouve l'œuvre subversive et pavillon auquel il va arriver quelques bricoles. Là, on peut penser au pavillon d'or de Mishima, etc. Enfin, il y a tout un jeu comme ça. Il y a un jeu aussi avec les codes littéraires, avec les genres, puisqu'on passe... je pense que Julia Deck a dû beaucoup s'amuser là-dessus. C'est vraiment des exercices de style. On passe du roman épistolaire au pastiche d'articles, avec les initiales des deux intervenants, du journaliste et de l'actrice. Ça fait UMP face à PS. Bon, c'est des petites choses comme ça, des petites notations, mais c'est assez facétieux. Il y a de la tragédie aussi, enfin des scènes de théâtre, donc c'est assez amusant, plutôt très bien exécuté. Moi, la seule petite remarque que je voudrais faire, c'est que au cœur même de ce livre se trouve la question de la subversion de l'art, ce dont Laurent a très très bien parlé, effectivement, comme on peut lire Rimbaud et ensuite retourner au bureau. Je trouve que ce livre manque un tout petit peu de subversion et peut-être un petit peu lissé. Effectivement, tout est parfait, très très bien mené, très bien fait. Ensuite, dans la forme et même dans le propos, ça reste assez sage.
Réponse de Laurent Nunez d'abord, puisque vous en parliez.
Oui, ça reste sage parce que pour qu'un livre soit publié, commercialisé, etc., il faut que ça s'agit. Vous savez, c'est ça qui est très intéressant. En effet, on l'a dit, c'est un livre, c'est l'édition de Minuit, c'est gorgé de références, de citations. La galerie s'appelle Elstir, comme le peintre dans Proust, etc. Ou même, il y a quelque chose d'assez beau. Et à un moment, il y a l'un des personnages, c'est un président d'une banque qui doit aller absolument à une réunion au tout début. Et donc son assistante qui travaille pour Sigma lui dit d'y aller. Et il répond quelque chose de très bizarre. Il veut pas y aller. Et il dit pas « je préférerais pas », il dit « je préférerais ne pas ». Pour tous ceux qui côtoient un peu les bibliothèques, « je préférerais ne pas », c'est la phrase préférée de Bartleby, dans Bartleby le scribe de Melville, qui est le livre le plus transgressif, le plus subversif du monde, puisque c'est quelqu'un qui, par une parole, change le monde entier. Et ce personnage-là, il a deux doigts. Il a deux doigts de faire comme ça, mais pour lui, c'est que des mots. Il dit « je préférerais ne pas », il y va, « I would not prefer to », c'est ça, mais il y va quand même. Et vous voyez, je crois qu'elle joue avec ça, on est à chaque fois, on n'est jamais très loin du transgressif, peut-être qu'elle n'y arrive pas, mais qu'elle le dit, on n'est jamais très loin, on rêverait d'y arriver, ce banquier rêverait d'y arriver, il n'y arrive pas.
Philippe Chevillier.
Moi je crois que peut-être que la transgression n'est pas aussi forte, mais elle a d'une autre nature, c'est parce qu'on reste quand même sur le ton de la comédie, de la fable grinçante, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour dans ce livre. Et du coup, cette forme de légèreté qui permet aussi de tempérer les choses atroces finalement qu'on nous raconte sur le monde, moi j'aime bien que la comédie porte justement un propos assez subversif. Et la subversion peut-être plus insidieuse, mais elle fonctionne. Moi, je suis d'accord, elle fonctionne bien. Et dans la forme, oui, on parlait de la pièce de théâtre, c'est assez brillant. En fait, il y a une pièce de théâtre à un moment donné parce que les quatre personnages principaux se retrouvent dans un chalet, mais ils n'ont pas le droit de venir avec leurs assistants espions, serviteurs. Et du coup, il y a des micros posés. Alors, les micros, on décrypte et on se retrouve avec une pièce de théâtre qui, oh, c'est pas vraiment du Pinter, mais il y a un côté vaudeville. Il y a des personnages bizarres. Il y a le personnage du fils qui essaie de draguer un peu le banquier. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien aussi ces échappées qui font que, à chaque fois, on a l'impression que ces êtres sont extrêmement humains. Ont tous des... Alors, le banquier, justement, qui possède l'œuvre, par exemple, il est complètement dans le burn-out total. Et en même temps, cette vision des personnages qui sont surhumains, mais qui sont finalement happés par la machine quand même, parce qu'à la fin, quoi qu'il arrive, et même si les plans de Sigma sont un peu, partent un peu en vrille, et ben, finalement, ça retombe sur ses pattes. Et c'est vrai qu'à la fin, là. Bon, alors je ne dirai pas la fin.
Oui. Non, vous n'allez pas dire la fin. Certainement
très
pas.
Très ouverte et très belle.
Elisabeth ?
Non, mais surtout peut-être que ma petite réserve tient au fait que, comme très souvent, et ça devient un truisme de dire ça, mais la réalité dépasse la fiction, et cette volonté de lisser les œuvres, de surtout faire en sorte qu'elles ne soient pas transgressives ou subversives, c'est de plus en plus notre réalité. Là, je lisais il y a peu de temps un article sur le fait qu'aux États-Unis, de plus en plus de maisons d'édition se dotent de ce qu'on appelle des détecteurs de faux pas littéraires, c'est-à-dire des experts où il va y avoir des
petit salon là-dessus la saison dernière.
Ah, ouais. Pardon, je l'ai pas entendu.
Expliquer un peu les choses.
Donc des groupes d'experts qui vont lire les œuvres avant leur publication pour voir si il n'y a pas dans leur contenu quelque chose qui serait de nature à heurter la sensibilité de certains lecteurs.
De telle ou telle minorité.
Et donc, en fonction des rapports qui seront faits par ces groupes, eh bien, on coupera les passages incriminés ou qui pourraient...
Pourquoi pas demander qu'on arrête les cigarettes dans les films.
Mais voilà.
Et puis quoi encore, Philippe Chevillier.
Non, mais en même temps, je crois qu'on n'en est pas là, parce que là, elle a vraiment fait le livre, je pense qu'elle voulait, je pense pas qu'elle se soit bridée, j'ai pas l'impression.
Ah non, c'est pas ce que je disais, je voulais dire justement que on est déjà, ce qu'elle décrit et oui, cette organisation déjà. Sigma, on n'est pas tant dans la fiction
oui, mais enfin,
que
quand
ça.
Quand on voit au théâtre et qu'on voit, il y a quand même des spectacles qui sont. Alors, souvent, il y a des spectacles subversifs qui ne marchent pas parce qu'ils sont pas bons. Mais quand il y a la subversion et qu'ils sont bons, ça fonctionne encore. Simplement, c'est vrai qu'il y a une machine depuis tout temps avec le côté étatique, le prince, les institutions. Finalement, on permet à l'art d'être un petit peu plus remuant, mais oui, dans certaines limites. Sinon, on gomme. Mais dans la communication, ce qui peut apparaître le plus subversif.
Laurent Nunez ?
En lisant le livre, je me rappelais... Tout ce livre, on pourrait être résumé par une phrase de Breton, vous savez, dans Manifeste surréalisme, alors ça va être le troisième ou quatrième, il écrit, il paraît qu'on enseigne le surréalisme dans les écoles, je ne doute pas que ce soit pour le réduire. Mmh. Voilà, toute l'idée est là, qu'à partir du moment où quelque chose est institutionnalisé, même une idée très rebelle, elle devient vide, elle devient lisse.
Mmh. Non, mais c'est vrai que cette dimension de l'art et l'institution est un des fils évidemment très important de ce livre et que je trouve assez passionnant, qui pourrait générer d'autres petits salons, et c'est vrai pour les arts plastiques, singulièrement. On s'en fait d'ailleurs l'écho dans nos disputes consacrées à cette discipline, le mercredi soir, comme chacun sait. Parce que c'est vrai qu'il y a des dévitalisations. Une œuvre qui est transportée dans une belle boîte blanche peut perdre toute sa force de subversion selon l'accrochage, selon le voisinage avec telle ou telle autre œuvre. Alors, peut-être que effectivement les groupes de recherche de faux pas, je ne sais plus quel était le nom exact de ces correcteurs à l'avance, si je puis dire. C'est pas tout à fait la même chose pour la littérature, mais c'est vrai que ce qu'on entend sur le cinéma, je parlais de l'histoire de la cigarette, qui pourrait paraître une blague, mais ça n'était pas une quand ça a été énoncé par la ministre de la Santé. Mais aujourd'hui, l'autocensure primaire des artistes dans toutes les disciplines est quand même une question qui me semble une question majeure aujourd'hui qui risque de le rester un certain temps.
Oui, quand on voit je sais plus où ça s'est passé, mais des toiles des Gonchille qui sont
oui, dans le métro.
Il fallait masquer les parties génitales. C'était en Autriche, non ?
C'est en Autriche, d'accord.
Et du coup, le musée s'en est servi pour dénoncer aussi cette demande de censure. C'est effectivement mettre des bandeaux. Là où il ne faut pas voir. Philippe Chevillier, ça vous inspire quelques réflexions, cette autocensure exigée, ou cette censure tout court ?
Oui. Enfin, moi, je pense que, encore une fois, j'étais en train de réfléchir sur notamment l'art et l'art contemporain. Souvent, la façon de présenter l'art contemporain comme quelque chose de vraiment réservé un peu une élite, des choses qu'on comprend pas, et tout ça, ça casse d'emblée. Et on pense que ça ne peut être vu que par des gens qui sont d'un certain niveau social et d'une certaine érudition. Je trouve que le livre, en prenant vraiment Julia Deck, elle prend un personnage de peintre en plus très crédible. Et je pensais à ce que vous disiez sur les références, il y en a plein. Et c'est bien aussi que on en fait, même dans la forme, tout ce qu'elle fait, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit appuyé et que ça coule dans une force romanesque comme ça, dans un élan romanesque, pardon, et que ça se coule dans un élan romanesque et qu'on n'ait pas cette impression justement de choses trop érudites, trop sérieuses et tout. On peut vraiment, c'est un livre qui est que tout le monde peut lire, qui sans forcément connaître les codes littéraires ou artistiques.
Un commentaire, Boris Pinault.
Oui, de Quentin A sur Twitter, une réflexion intéressante sur la question du complot, de jolis jeux littéraires et exercices de style, notamment autour de la forme épistolaire, de la critique d'art et de la communication scientifique. Un très bien au roman de Julia Deck.
Bon, ben oui, c'est vrai que la question de la forme, on voit que Julia Deck, c'est quoi, son troisième, quatrième livre ?
Troisième.
C'est quand même, ça atteint un niveau quand même très intéressant. C'est un auteur qu'on suit depuis ses débuts, qui ne sont donc pas si lointains. Voilà tout le bien qu'on voulait dire ce soir de Sigma, Julia Deck, publié aux éditions de Minuit.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute consacrée à la littérature, une autre façon d'interroger l'art, la littérature elle-même, ici avec Défense de Prosper Brouillon, d'Éric Chevillard, publié aux éditions Notabilia Noir sur Blanc, avec des illustrations de Jean-François Martin, Chevillard, auteur régulier des éditions de Minuit, feuilletoniste dans le monde des livres, s'autorise régulièrement des pas de côté. C'est le cas donc avec ce livre, où il fait l'éloge d'un écrivain, usant force, citation. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Every time you go away, the night seems a little bit longer. Feelings inside of me come alive. There's nothing that I can do, so close my eyes, dreaming about you, something so magical. Every little bit of my heart. Il plaît, et c'est ce qui déplaît. Pas un roman de Prosper Brouillon qui ne se hisse quelques minutes après sa sortie en tête de liste des meilleures ventes. Au reste, il ne s'y hisse pas, il s'y propulse, porté par la ferveur populaire. Il y a quelque chose de sublime dans cette assomption. Le lecteur instantanément lui fait un triomphe, à l'aveugle, de confiance, comme on s'accouple dans la nuit avec l'être aimé. Alors bien sûr, un tel succès agace. La visite de la fauverie du zoo de Vincennes vous coûtera 22 euros. À Saint-Germain-des-Prés, vous entendrez grincer des dents et grommeler pour pas un rond. Dans ce quartier exclusivement peuplé de critiques littéraires défigurées par la hargne et le ressentiment, le rire même se confond avec le pleur douloureux des digestions difficiles. Précisons-le d'emblée, Saint-Germain-des-Prés n'est circonscrit au 6e arrondissement de Paris que par quelques fonctionnaires de l'administration territoriale, eux-mêmes très bornés. Il s'agit moins en vérité d'une entité géographique que d'un état d'esprit. Et je ne connais pour ma part des germanopratins typiques qui n'ont jamais quitté la Creuse. Ils restent très minoritaires cependant, et nos régions, entièrement conquises, aiment et fêtent Prosper Brouillon, avec cette foi authentique qui nous autorise à ne pas désespérer tout à fait de nos semblables. Il n'y a qu'à Saint-Germain-des-Prés, urbi et orbi, donc dans ce petit milieu consanguin où les passions rancissent, où l'âme suffoque et se racornit comme un ballon crevé, que l'encre aussi tourne au vinaigre. Le succès est immédiatement puni, nul ne sait simplement s'en réjouir, l'accueillir, le célébrer. Pitoyable humanité, à jamais perdue pour l'amour, ont-elles seulement un cœur, ces mesquines personnes ? C'est la première page de cette défense de Prosper Brouillon et nous n'allons pas finir de faire des citations parce que je pense qu'on a tous très hâte d'en faire. Laurent Nunez, qu'est-ce que c'est que ce livre d'Éric Chevillard ? Oui. Est-ce bien sérieux ?
C'est...
Oui et non.
C'est l'addition d'Éric Chevillard aux chroniques qu'il donnait au Monde. Vous savez, au Monde des livres, Chevillard chroniquait des livres en bien ou en mal. Et il a décidé d'unir. Vous savez, Borges disait qu'il y a un seul écrivain dans le monde à chaque fois. Lui, il pense, Chevillard, qu'il y a un seul mauvais écrivain dans le monde qui s'appelle comme ça Prosper Brouillon. Il réunit tous les mauvais livres qu'il a lus. Et donc, voilà, il va inventer un personnage qui va défendre ce Prosper Brouillon. Vous avez vu, c'est très ironique, hein, le début. Voilà.
Ah bon,
voilà, il faut défendre Prosper
au
Brouillon.
Au premier degré.
Parce que Prosper Brouillon vend énormément. Mmh. La critique le déteste. C'est très mauvais. Elle dit que c'est très mauvais. Donc notre personnage va montrer à quel point c'est génial.
En s'appuyant sur le dernier livre paru. Les gondoliers. Chef-d'œuvre, Les Gondoliers.
Voilà, Les Gondoliers, c'est-à-dire à la fois le livre qui est en tête de gondole et celui qui fait nous gondoler de rire, parce que toutes les citations. Alors, c'est ça qui est assez drôle et assez classe, c'est Chevillard. Toutes les citations qu'il donne à Prosper Brouillon proviennent d'écrivains actuels.
Et vous vendez la mèche.
Mais il ne les nomme jamais. Alors évidemment, on le lit avec Google à côté en tapant et on découvre, un peu stupéfait, que X avait écrit ça ou Y. J'ai pas envie de les nommer parce qu'en fait, moi je m'étais dit, à la dispute, on les a jamais nommés, on n'a jamais parlé d'eux, et tant mieux. Mais si vous voulez.
Je l'ai trouvé, oui, c'est vrai, je crois pas, en effet.
Mais.
C'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'écrivain.
Oh, c'est facile.
Non, mais voilà, non, mais ça va de.
Donc là, je ne vais pas donner les noms, là, c'est sûr.
Ah bon, je peux, ça va de Tolé à Fuenkinos en passant par Schmitt.
J'allais le dire.
Éric Neuf, Laurent Belbédé, Yasmina Kalra.
Vous étiez.
Grégoire Delacour.
donc voilà.
Maintenant, on peut mettre les citations en face. Hein,
voilà. Bon. C'est un livre. Très drôle. Moi, j'ai beaucoup ri. C'est un livre hilarant. Vous savez que c'est quand même assez rare de faire rire sur la critique littéraire. Quand même. C'est quand même un sujet assez aride. C'est un livre à la fois très intelligent, presque aussi intelligent que Feupal, le chef-d'œuvre de Nabokov, qui fonctionne de la même manière. Un homme lisait un poème et essayait de l'interpréter, en croyant que le poète parlait exclusivement de lui. Cette fois-là, le défenseur Prosper Brouillon prend à la lettre les citations. Mmh. Voilà, il est persuadé que c'est très très bien, et c'est ça qui est drôle. Et parce qu'il est persuadé que c'est très bien, nous on est effarés devant les citations. La meilleure pour moi, c'est « Ils s'engageaient confiants dans l'étroit couloir du bonheur, en croyant au rhododendron de leur passion. »
Mais là, on a l'impression que c'est pas possible.
On a l'impression que c'est pas possible, ça a été pourtant publié par... alors rhododendron, ça donne un indice de qui l'a publié quand même. Ces jardins. Donc voilà.
Ah, vous faites des blagues, vous aussi.
C'est sûr que c'est fait exprès, quand même. Donc voilà. Donc là, on découvre que non, il faut arrêter les métaphores filées. C'est très, très mauvais. Ça ne marche pas. Donc voilà, il y en a beaucoup comme ça. Je garde pour la deuxième fois où je vais parler une autre petite découverte que j'ai faite sur le livre. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre très beau. Il faut le dire quand même un truc, c'est un livre magnifique. C'est-à-dire la typographie, les pages, les illustrations. Je l'ai montré à plusieurs personnes cette semaine. Personne ne comprenait comment il pouvait être si peu cher alors qu'il est si bien réalisé.
Oui, alors il y a deux noms d'éditeurs. Il y a Notabilia sur la couverture, il y a Noir sur Blanc à l'intérieur. Bon, je ne sais pas quel est le vrai nom de la maison. Donc, c'est pour ça que je donne les deux en tout cas. Et puis il y a ces dessins et ces illustrations de Jean-François Martin. Mais c'est vrai que vous avez révélé, mais il aurait été difficile de faire autrement dans cette émission, le poteau rose. Mais quand on le lit, si je puis dire sérieusement, donc en s'amusant, et qu'on arrive sur cette note, page 98, toutes les situations attribuées à Prosper Brouillon sont extraites littéralement et sans retouche, je le jure, d'une vingtaine de romans français publiés ces dernières années, ayant tous obtenu de beaux succès de vente, ainsi que de nombreuses traductions, Certains ont été lauréats de prix, des jurés, etc. Là, c'est quand même un coup de massue. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça, Philippe Chevillard ?
Oui, d'autant que moi, au début, quand j'ai... Alors, je vais vous dire que c'est le début de livre, j'ai du mal à démarrer. Mais c'est vrai que je trouvais ça à la fois très drôle, le début, la caricature du critique qui veut défendre l'auteur à succès. Mais presque un petit peu long. Et alors, quand la première citation est tombée, c'est vrai que j'ai éclaté de rire. Et là, ça a été un peu tout du long. Et là, en plus, comment il retravaille ces citations pour en faire une histoire, pour écrire finalement l'histoire des gondoliers, pour en faire un roman ou l'exégèse d'un roman. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, quand on quand on sait ou quand on lit le résumé, quand on comprend ce qu'il va faire, on se dit, bon, c'est un peu facile. Il va nous trouver des citations hors du contexte. Et justement, non, c'est-à-dire que ces citations sont parfaites dans leur nullité. C'est ça qui est extraordinaire. Elles sont incroyablement mauvaises. Et alors, on se dit parfois, j'ai fait l'exercice en regardant sur Google, je me suis dit, tiens, un ou deux moments, c'est vrai que c'est visiblement une énumération, là, la fatigue. Alors, il s'est passé, mais à d'autres moments, c'est pas possible. Ça peut pas être la fatigue de l'écrivain. D'abord, ça aurait dû être vu par l'éditeur ou par le relecteur, je sais pas. Mais donc, cette façon. Et après, on s'interroge et on se dit, mais au fond, cette littérature française qui couvre plusieurs années, alors moi, je sais que je lis plutôt des romans étrangers, maintenant, je sais encore plus pourquoi. heureusement, vous êtes là pour me faire découvrir des romans français comme Julia Deck et voilà. Mais en même temps, je me dis qu'est-ce qui fait que on ait recours. Alors, je pense que ces romans sont relativement plats et que on essaye par moment de leur donner un peu de piment en faisant une espèce de petite accroche surréaliste, quoi, partir dans un effet poétique. Mais sauf que ça c'est complètement à côté. Et sans parler d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des citations complètement délirantes, il y a aussi de la platitude pure dans les citations.
Le meilleur étant Vitavie.
Vitavie, par exemple.
Oui, mais là, c'est les conseils du grand-père, figure de l'auteur. Mais La nuit retrousse ses ourlets sur les premiers attouchements du jour, c'est quand même magnifique. Elisabeth Philippe,
citation plate. On n'a qu'une vie, les apparences sont trompeuses, personne n'est sûr du temps qui lui reste à vivre, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, tu en es le seul artisan, ou encore une fille, ça s'ouvre et se referme, le problème est de trouver le bon mot de passe. Ouais. Ça, c'est élégant.
C'est très chic.
Très chic.
Elisabeth Philippe.
Non, on remerciera jamais assez Éric Chevillard de nous venger. Quand même, de ces heures passées à lire ces mauvais livres qui ne seront jamais rendus. Et là, il nous les rend, finalement, par l'humour.
Mais en nous faisant du bien.
En nous faisant du bien. Et rien que pour ça, on le remercie. Non, c'est effectivement un livre extrêmement drôle. Je sais que vous êtes assez opposé à l'exercice de la citation à charge, Arnaud.
Non, mais là, c'est le principe du livre.
C'est le principe du livre. Et comme le disait, disait Philippe, c'est tout à fait pertinent. Que dire de plus une fois Enfin voilà, on a envie de les enquiller.
Allez-y.
Il ne recommencerait pas ce 11 septembre intime. Je l'aime beaucoup. Dans le même esprit, à la fois guerrier et amoureux.
Attention, je vois
venir. Je fonce dans l'amour comme d'autres s'aventurent sur les terrains minés de l'Afghanistan, car j'avoue ne pas croire que l'amour tue, bien que j'ai frôlé ses précipices à certains moments de ma vie. Et une dernière, parce qu'elle est très très belle aussi. Je suis ton Hitler et tu es ma France. Ne t'inquiète pas, je ne te demande rien en échange de mon occupation de ton territoire spirituel.
Alors, ce qui est le pire dans le cas présent, c'est que c'est un écrivain français qui prétend écrire une lettre d'un écrivain américain, et ça donne effectivement ce Hitler et cette France. Ouais. C'est Frédéric Becbédé qui se prend pour Salinger, rien que ça. C'est Una et, enfin, c'est, je sais plus quel est le titre de Una et Salinger. Ce qui est quand même absolument, enfin, c'est au-delà du mauvais goût, mais on pourrait en citer beaucoup. Moi, j'aime infiniment. Elle fouettait l'instant, l'imprévu était sa résidence secondaire. Ça, bon. Donc, oui, rendons grâce à Eric Neuf, qui est l'auteur de ces deux magnifiques phrases.
Mais Chevillard a vraiment le talent. Enfin, moi, ça m'a fait penser aussi aux chroniques de Bustos Domecq. Vous parliez de Borges tout à l'heure, Laurent. Donc, ces chroniques de Bustos Domecq, qui sont ces chroniques autour d'artistes fictifs écrites à quatre mains par Borges et Bioy Casares. Ou, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur Jean-Benoît Puech, qui a créé de toutes pièces l'écrivain Benjamin Jordan et tout l'appareil critique qui entoure l'œuvre de Benjamin Jordan. Et on est dans ce jeu littéraire-là qui a un genre en soi et que Éric Chevillard maîtrise à la perfection.
Des commentaires, Boris Pinault, concernant ce livre d'Éric Chevillard?
Oui, Estelle Ogier sur Twitter parle d'un Chevillard désopilant. Quentin écrit lui sur un Chevillard génial. Le fait que les citations attribuées à Brouillon soient tirées de vrais livres ayant eu de vrais prix, écrits par de vrais écrivains, montre bien l'arnaque littéraire que peuvent être certains auteurs.
Alors, peut-être pour mieux situer les choses, parce que là, du coup, on fait des citations, mais par exemple, il défile l'histoire, il déroule l'histoire de ces gondoliers. Alors, là, c'est l'auteur qui écrit. Mais voici que Rennes paraît sur le perron. Polo, justement, s'active au-dessous dans un massif. Il lève la tête, il la voit, elle repousse d'une main ses cheveux. Citation. Le visage de la jeune femme se précisa et lui empoigna l'âme. Fin de citation. Et d'un coup, le fameux « ce fut comme une apparition, l'éducation sentimentale » se retrouve relégué au rayon vieillerie de notre littérature. Qui pouvait faire mieux que Flaubert, sinon Prosper Brouillon? Non, parce que là, les citations sont hilarantes, mais la défense est absolument magnifique, Laurent Nunez.
Oui, non, en effet, les citations sont extrêmement drôles et en même temps, elles sont assez pernicieuses. On l'a dit, les citations commencent au chapitre 3 et l'une des premières citations, c'est « Un deuil brutal aboie en elle ». C'est du Jean Telet, sauf que quand on regarde un peu, c'est du Jean Telet qui aurait copié Verlaine. Parce que Verlaine, dans Sagesse, il avait écrit, j'ai un quatrain, « C'est la vieille reine de Troie, tous ses fils sont morts par le fer, alors ce deuil brutal aboie et glapit au bord de la mer. » Alors, je ne suis pas en train de dire que c'était bien quand c'était Verlaine et que c'est mauvais quand c'est chez Telet, c'est exactement l'inverse. Je suis en train de dire que Prosper Brouillon, vous n'avez pas vu à quel point d'ailleurs c'est un nom du 19e siècle. C'est un nom très daté. Eh ben, toutes ces citations-là, elles sont extrêmement datées. Tous ceux qui croient qu'écrire, c'est écrire comme au 19e siècle, n'arrivent pas à faire des bons livres. Ils deviennent des Prosper Brouillon. Alors du coup, c'est ça empoigne l'âme, toutes les citations comme ça qui sont très empoulées. Et peut-être que c'est une des attaques de Chevillard de dire ça. Être empoulé, ce n'est pas la littérature.
Quand je n'écris pas, c'est que quelque chose en moi ne participe plus à la conversation des étoiles.
Bah, vous voyez, voilà. C'est-à-dire que ça aurait pu être sous Hugo ou quoi, mais tout coup, au XXIe siècle, c'est plus possible.
Oui. Alors, il y a beaucoup de références absolument magnifiques que fait l'auteur à l'autobiographie de Prosper Brouillon, au titre génial, oui, génial. Écrire et tricoter, c'est pareil. Il y fait très, très souvent référence. Philippe Chevillet.
Oui, je crois que c'est Eric Orsenna. On balance vraiment ce soir. Alors, moi, je voulais dire aussi, je me suis dit, au fond, quand même, il m'arrive parfois, dans des articles, de faire des effets un peu lyriques. Si ça se trouve, je vais en retrouver des comme ça, j'ai un peu honte. Donc, il faudrait que je sois calme, que je ne cite personne, mais c'est fait, c'est trop tard. Maintenant, je vais prendre une bonne résolution, j'évite les métaphores un peu trop appuyées et les aphorismes pareils.
Les critiques ne sont pas épargnées non plus. C'est vrai qu'il se moque aussi des tics qu'on peut tout savoir. Nous sommes faillibles, on ne sort pas indemne, un livre dont on ne sort pas indemne, une vraie claque, voilà, ces espèces d'expressions grandiloquentes et exaltées quand on ne sait pas comment terminer un article, il faut bien l'avouer. Oui. Nous aussi, on a nos faiblesses.
C'est le début du livre, quoi. Il déplaît. C'est vraiment ça.
Je suis en train de chercher, en effet, ce passage qui était un petit peu au début, mais je ne le trouve pas en même temps que je vous parle. Donc, je suis bien obligé de passer à autre chose, mais bon, ça pourrait durer extrêmement longtemps, mais encore une fois, il y a aussi quand même tout ce travail de couture extrêmement précis, hein, c'est vraiment de la dentelle que fait Éric Chevillard. Bon, il devait avoir une certaine masse de documentation. Cette phrase, les femmes ont un clitoris. Bon. J'ai pas cherché qui avait écrit cette phrase qui nous apprend quand même beaucoup. Il faut s'y mettre à plusieurs. Défense de Prosper Brouillon. Et puis, avec son camarade Jean-François Martin, on bénéficie des couleurs aussi pour ce qui n'était pas toujours le cas dans le monde, me semble-t-il.
Si, c'est en couleur aussi.
Ah, c'est en couleur aussi. Ouais. Eh bien, elle ne m'apparaissait pas aussi belle que dans les pages de ce livre publié chez Notabilia, noir sur blanc. Éric Chevillard, le livre s'appelle « Défense de Prosper Brouillon ». Vous en voulez une petite dernière ou... Ah, oui. Ça ira comme ça. Allez, une petite dernière, Laurent.
Il eut alors un sentiment confus selon lequel des mots qu'il connaissait, emperlés d'une certaine manière, étaient capables de modifier la perception du monde. Saluer la grâce, anoblir la simplicité.
C'est chic. Philippe,
c'est chic. Moi j'en ai une, c'est la dernière, mais je trouve qu'elle résume beaucoup tout l'amour dans les romans français. Et ils se regardèrent en rougissant, émus et émouvants, et se tinrent par la main jusqu'au rayon des fromages.
Celle-là, elle est bonne. C'est une bonne citation. Elisabeth, vous voulez une petite dernière?
Oui, il y en a une, surtout que celle-ci, je l'ai reconnue sans Google. Ah. Attention, c'est un petit peu osé. Polo, et là la citation commence, « Polo entra en elle par derrière, elle changea de souffle, de cadence. Ce n'était plus une symphonie, mais plutôt la lettre à Élise, quelques notes lentes et difficiles, avant que la symphonie ne décolle. » Bon. Florian Zeller.
Bravo pour cette citation. Défense de Prosper Brouillon, d'Éric Chevillard, chez Notabilia, noir sur blanc. Et nous concluons avec une vraie question. Ça va être celle qui concerne le jeu de la dispute. D'abord, la vraie question d'hier au soir et sa véritable réponse, Grégoire Desfiore.
Dans quel désert, filmé par Wang Bing, des opposants au régime maoïste étaient envoyés? Et la réponse était le désert de Gobi.
Ouais, c'est tout de suite, l'ambiance retombe, hein, vous avez remarqué. Ce soir, on fait gagner des places de cinéma pour aller voir Western, le film de Valeska Grisbach, qui est sorti hier, dont on parlera demain dans la dispute. La question?
L'acteur principal du film n'est pas un acteur professionnel. Quel est son métier?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions. Et en passant sur ce site, vous vous abonnez au podcast de la dispute. Demain, 19h, nous serons comme chaque vendredi en public au bar Le Bel Air, la maison de la radio, pour une dispute consacrée au cinéma, en compagnie de Florence Colombani, Charlotte Garçon et Thierry Chaise, à notre affiche « Argent amer » de Wang Bing, « Thelma » de Joachim Trier et « Western » donc de Valeska Grisbach.